Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix pour cette édition. C'est l'actualité phare de ce mardi 19 décembre 2023. Le bureau politique du PDCI RDA s'est effectivement ouvert ce mardi après-midi. Après la suspension le 16 décembre de son 8e congrès extraordinaire, nous retrouverons en début d'édition Francis Cassis qui était au siège du parti. 100 000 nouveaux ménages issus de 14 régions vont bénéficier du programme Filet sociaux productifs, a annoncé récemment la ministre de la Solidarité Belmonde Dogo lors d'une cérémonie à Daloa où elle a encouragé les populations à œuvrer pour la réduction de la pauvreté. Et puis 5 projets de loi ont été adoptés par les sénateurs ivoiriens qui étaient en séance plénière de délibération hier lundi à Yamoussoukro. La présidente Kandia Camara a souhaité par ailleurs le relèvement des budgets des collectivités territoriales. Dans l'actualité internationale, pour terminer, tension diplomatique, Libreville rappelle son ambassadeur à Luanda. Voilà pour nos grandes lignes. Je vous le disais en titre, le PDCI RDA a ouvert ce mardi vers 17h les travaux de son bureau politique suite à la suspension samedi dernier de son 8e congrès extraordinaire devant désigner son nouveau président après le décès de feu Henri Conan Bédier. Francis Cassis était à la maison du parti septuagénaire. Il nous fait le point donc de ce qui prévalait cet après-midi au siège du parti à Cocody. Bonsoir Francis.
Et bonsoir Linda. Alors, nous y étions, la rencontre était annoncée pour 16h, donc déjà à 17h45-50, par là, tous les journalistes étaient sur place. Et je vous avoue qu'il y avait vraiment du monde. C'est les membres du bureau politique et puis les membres aussi du comité des sages qui étaient convoqués pour ce BP, entendre par le bureau politique. Et il faut dire que de 16h, c'est jusqu'à 17h08, que les choses vont démarrer avec l'arrivée dans la salle du président par intérim, le professeur Philippe Copli-Boni. Et quand il est arrivé, c'est sous des acclamations nourries que depuis le seuil, l'entrée à la porte jusqu'à à sa place à la table de séance, que le président a été accueilli. On l'a acclamé jusqu'à ce qu'il s'asseye. Et quand il s'est assis, le maître de cérémonie a demandé que tout le monde se lève, c'est-à-dire tous les participants du bureau politique se lèvent, pour chanter l'hymne du PDCI. Bien précisé, l'hymne du PDCI, qui commence, je crois, par 1946, par là, un truc comme ça. Donc, quand ils ont fini de chanter, le même maître de cérémonie a pris la parole, priant la presse de se retirer, expliquant que c'est une réunion à huis clos et que la réunion ne doit pas être enregistrée ni par vidéo ni par audio. Donc toute la presse a été priée de sortir, pour ne pas dire a été mise dehors. Mmh. Et il a même ajouté que c'est par un communiqué final que les journalistes pourront avoir les décisions qui auront été prises à cette rencontre. Et en attendant que ça commence, dans les échanges avec certaines personnalités, cadres du PDCI, et puis entre nous-mêmes journalistes, ces échanges-là ont laissé présager que la rencontre-là vraiment va traîner en longueur. Ça pourrait aller jusqu'à 21h, 22h. Même il y a quelqu'un qui disait peut-être jusqu'à minuit, parce que on va discuter des choses intéressantes pour arrêter des décisions vraiment ferme.
Merci beaucoup à vous, Francis Cassis. En tout cas, comme vous l'avez dit, c'était en griffe chaud au siège du parti. On espère que des décisions qui vont, pas arranger la Côte d'Ivoire, mais en tout cas des décisions fortes et justes pour en sortir de ce bureau politique.
Oui. Et chaud dans le sens fraternel, amical.
Oui, pas justement.
Dans le sens où
de guéguerre, non.
Voilà. C'est dans le sens amical. Et puis ce que j'avais constaté là-bas, c'est que tout le monde était en uniforme, presque tout le monde, uniforme, c'est-à-dire la tenue PDCI, la tenue pas une PDCI, tout le monde était en uniforme et sans oublier bien entendu cette chanson, je vais dire mythique de feu Ernesto Guigué, rendant hommage à Henri Conan Bédié qui est aujourd'hui lui-même aussi décédé, la chanson ne faisait que passer en boucle. Konambi Di, voilà.
Vraiment, et c'était émouvant. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que les candidats, en tout cas ceux qui sont annoncés en liste, étaient présents
Ah oui, il y a quelques noms qui ont été donnés par le maire de cérémonie, notamment Thiam. Et j'avoue que quand il est arrivé, entendre la salle, c'était vraiment des ovations. Ça criait de partout. Il y a eu le nom de Thiam qui a été donné par le maire de cérémonie, Akosi Bendio, qui est aujourd'hui rallié à Thiam, dont le nom aussi a été cité. Et sans oublier l'un des classiques, Guigemadi, qui qu'on ne voit plus, mais qui a été annoncé comme étant présent. Et puis, évidemment, Maurice Kakudikawi, qui est arrivé aussi dans la salle, je crois, en même temps que le président Koupli Boni.
Merci encore à vous, Francis Cassi. Nous pourrons retrouver les détails, sinon le compte-rendu de cette activité, notamment le bureau politique du PDCI RDA, dans nos prochaines éditions.
Merci.
Nous continuons ce 18h pour parler de cohésion nationale et de solidarité, de lutte contre la pauvreté, avec la ministre en charge de ce département, Belmonde Dogo, qui a organisé à Daloa une cérémonie de valorisation des acquis et de partage d'expériences avec les bénéficiaires des filets sociaux, couplée également du lancement officiel des paiements des 100 000 nouveaux ménages bénéficiaires de ce programme. Une occasion pour Belmonde Dogo et du ministre Mamadou Touré, qui l'accompagnait par ailleurs, président du conseil régional du Haut-Sassandra, de mieux expliquer et présenter aux populations ce programme social et solidaire du gouvernement. Le compte-rendu avec Jean-Noël Kwame.
Pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, il s'agit de renforcer l'action sociale du gouvernement et favoriser le développement en Côte d'Ivoire.
Cette année 2023, 100 000 nouveaux ménages ont été ciblés dans 14 régions. Et pour la région du Haut-Sassandra, nous avons enregistré 13 293 nouveaux ménages, la création de 112 associations de valorisation de l'entraide communautaire. Le président de la République et le premier ministre en appellent à consolider les leviers d'une Côte d'Ivoire solidaire où les citoyens voient leurs conditions de vie s'améliorer et bâtissent la cohésion nationale.
Après un défilé des bénéficiaires, le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, a également salué cette action sociale et solidaire du président de la République.
Lorsque le président Assane Ouattara arrive aux affaires, la pauvreté dans notre pays avait atteint 31%. Aujourd'hui, selon la Banque mondiale, cette pauvreté a baissé. Nous sommes autour de 39%. Ces personnes qui sont ici, les ressources reçues ont permis de transformer leur vie. C'est le visage humain de l'action sociale du chef de l'État.
Le gouvernement ivoirien envisage, dans le cadre du programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux, la prise en compte de 300 000 ménages bénéficiaires sur la période 2023-2025. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Et notons que de 2017 à ce jour, ce sont plus de 27 300 ménages qui ont bénéficié du programme filets sociaux productifs dans le Haut-Sassandra. Pour chaque enfant, tous ses droits, c'est le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale de l'enfance tenue au siège de SOS Village d'Enfants à Abidjan, Cocody. Pour les différents participants à cette journée commémorative, la promotion pour le respect des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire a connu des avancées, même si des efforts sont encore à faire pour arriver à une totale couverture des droits de tous les enfants. Le compte-rendu de cette cérémonie commémorative avec Mel Emmanuel.
Djabaté Ami, j'ai 17 ans. Avant moi, je faisais apprenti de Baka. Bon, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis une pâtissière, je fais la pâtisserie.
Comme elle, ils sont près de 650 jeunes filles et garçons issus des couches défavorisées de la société que le projet Tantibagage, initié par SOS Village d'Enfants en Côte d'Ivoire, a réinséré dans le tissu socio-professionnel. Lancé en 2017, le moment était venu pour SOS Village d'Enfants en Côte d'Ivoire de dresser un bilan de l'évolution du projet. Koala Oumarou, directeur national.
On a besoin de mesurer la performance obtenue et aussi évaluer les insuffisances en vue donc de tirer les enseignements nécessaires et faire faire les ajustements et les corrections adéquates pour être plus efficace possible et aussi voir comment nous allons amorcer les perspectives avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'espoir de réussir ce que nous faisons au bénéfice des enfants et particulièrement des jeunes.
Au menu également de cet atelier, un plaidoyer à l'endroit de tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants.
Le plaidoyer, c'est pour inviter l'ensemble des acteurs à s'unir, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau communautaire ou au niveau des associations non gouvernementales, pour faire en sorte que nous ayons plus de force, plus d'efficacité, pour que nous puissions travailler de manière concertée et de manière cohérente pour espérer davantage de résultats.
L'atelier de capitalisation des acquis du projet Tantibagage s'est terminé par une foire aux produits des bénéficiaires du dit projet.
Parlons réconciliation et cohésion nationale, instituée le 5 août 2020 par le gouvernement ivoirien et célébrée le 16 décembre de chaque année. L'édition 2023 de la Journée nationale du pardon et du souvenir a eu lieu le samedi 16 décembre dernier à la paroisse Saint-André de Yopougon. En marge donc de cette célébration, la COVICI, la Confédération des organisations des victimes de crise ivoirienne, qui a eu 10 ans le même jour, a organisé son assemblée générale annuelle. Témoin pour Radio de la Paix, Jean-Claude Mabeya.
Kanté Lansina, le président du conseil d'administration de la COVICI, la Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes, a fait les recommandations suivantes.
Au chef de l'État, que la réparation des victimes soit placée au cœur du processus de réconciliation nationale. La publication du fichier unique consolidé des victimes, le vote de l'avant-projet de loi sur le statut des victimes, l'octroi d'une rente viagère aux victimes rendues invalides du fait de la guerre. Au ministère de la Cohésion sociale, la COVICI recommande la reprise de la distribution des chèques d'1 million aux parents de victimes décédées. La participation des organisations de victimes dans la conduite du processus de réparation afin de le rendre plus lisible et visible. La mise en œuvre des résolutions de la CDVR et de la CONARI. Aux victimes, la COVICI recommande le pardon et la résilience.
À la COVICI, le professeur Amoy Urbain, président de l'université Charles-Louis de Montesquieu, qui a fait une communication, a suggéré ce qui suit.
Que incessamment, tous les présidents du collectif se réunissent en un atelier de réflexion. Que cet atelier de réflexion débouche sur un programme national de réparation.
Selon Kanté Lansina, le président du conseil d'administration de la COVICI, le taux de réparation des victimes n'excède pas les 5% après 8 ans de mise en œuvre de la politique d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes.
Vie des institutions, le Sénat ivoirien était réuni hier lundi 18 décembre à Yamoussoukro en séance plénière de délibération portant sur 5 projets de loi. Des projets de loi tous adoptés par les 96 sénateurs présents sur les 97 que compte pour l'instant l'institution. La présidente Kandia Kamisoko Camara a au terme des travaux exprimé sa satisfaction et plaidé pour le relèvement du budget des collectivités territoriales. Kandia Kamisoko Camara, la présidente du Sénat, qu'on écoute dans des propos recueillis par Émile Yao.
Après les travaux en commission, nous nous sommes réunis pour procéder au vote. Et les sénateurs, à l'unanimité, ont voté les 5 projets de loi. À travers ce vote, notre institution donne son quitus au gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social pour le bonheur des populations. Je voudrais faire remarquer que le budget de l'État de Côte d'Ivoire est en hausse de 17%. Ce que nous saluons au niveau du Sénat, parce que nous sommes convaincus qu'avec ce budget, les préoccupations de nos populations seront prises en compte. Et nous voudrons féliciter et adresser toutes nos admirations au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Ce que nous souhaitons au niveau du Sénat, c'est le relèvement des budgets des collectivités territoriales, car nous pensons que cela va permettre justement aux élus locaux de prendre en charge les préoccupations de leur population, d'améliorer leurs conditions de vie et de travail et de rendre les Ivoiriens encore plus heureux. Donc nous sommes très heureux au niveau du Sénat d'avoir pu voter à l'unanimité ce budget 2024 de l'État de Côte d'Ivoire.
Vous écoutiez la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Camara. Autre sujet, c'est pour parler de la 9e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment, Archibat, plateforme de rencontre biennale des architectes, urbanistes, aménageurs et acteurs du développement urbain, édition 2023, qui s'est achevée le 16 décembre dernier au site, sinon sur le site du Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Bouy. Une 9e édition qui a enregistré une forte présence du public et mis en avant un thème des plus actuels. Selon Amon Joseph, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, qu'on écoute.
Alors la toute première, c'est l'attention et l'engouement du public envers le thème qui a été choisi cette année, à savoir architecture durable et industrie locale. On a vu un fort engouement du public qui est venu nombreux, assister aussi bien aux différents panels et visiter les différents stands de pavillons qui ont été réalisés. On visait 30 000 visiteurs durant les 5 jours d'exposition. Les derniers chiffres nous disaient qu'on avait atteint cet objectif.
Alors, le thème donc de cette édition 2023 était le suivant, architecture durable et industrie locale. Pourquoi le choix de ce thème? Quels étaient vos objectifs en tant qu'organisateur?
Alors, on tombe pile dans l'actualité présente, parce que le problème de la préservation de notre planète est aujourd'hui sur la table de tous les gouvernements. La planète est en danger. Si on n'y fait rien, on risque d'aller vers une catastrophe à très court terme. Et il était temps pour nous, en tant qu'architectes, de nous pencher véritablement sur ce sujet. En tant qu'acteurs au développement, donc acteurs étaient amenés à faire des propositions au niveau des compositions architecturales, de mode de réalisation, des principes constructifs et autres, et dans les choix des matériaux qui se rapportent à nos différents projets.
C'était Amon Joseph, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il a été joint par Aoussi Potin. À Farkessé-Dougou, les populations des villages de Dekoka, Nao, Vogo, Soro, Madjougou, Nomiraso, situés dans la région du Tchologo, ont reçu les clés de leur nouveau logement. C'était à la faveur de la cérémonie de remise officielle des clés aux bénéficiaires des logements du site de recasement des localités impactées par le projet du port sec de Farkessé-Dougou, et c'était le samedi 16 décembre dernier. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
Le projet de construction du port sec de Farkessé-Dougou a engendré le déplacement volontaire des populations installées sur les sites dédiés à la réalisation des infrastructures. Elles sont désormais réinstallées dans le village de Dekoka 2, dont en voici les caractéristiques selon Abdoulaye Alagui, chef du projet.
Le village de Dekoka 2 est bâti sur une superficie de 20 hectares et demi et comporte 200 villas, dont 188 logements de 3 pièces et 12 logements de 4 pièces.
Quid du coût de ces infrastructures? La réponse avec Amadou Koné, ministre des Transports.
Le volet social du projet du port sec se chiffre à 12 483 millions de francs CFA, dont 7 milliards pour la construction de cette cité et 800 millions de francs CFA déjà payés aux populations pour les indemnités d'éviction des terres agricoles.
Des populations qui réagissent à travers leur porte-parole, Ouattara Issa.
Nous nous engageons à prendre soin de ce beau cadre, espace de bon vivre qui nous permettra de continuer notre vie en société tout en gardant nos mœurs et notre tradition.
Et Tene Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense par ailleurs, président du Conseil régional du Tchologo, d'ajouter.
Chers parents, l'inauguration de ce village moderne témoigne donc d'un juste retour de votre engagement pour le développement.
Après le volet social, le nouveau défi désormais est d'aborder la réalisation de la zone portuaire qui devrait se faire sur 18 mois. De retour de Dekoka 2, Marcel Bonny Korogo, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sur le continent, le ministère gabonais des Affaires étrangères a procédé au rappel pour consultation de son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Angola. Selon une lettre du ministre gabonais des Affaires étrangères datée du 15 décembre 2023, une décision rarissime, signe de tension exacerbée entre Libreville et Luanda depuis le putsch militaire au Gabon du 30 août dernier. Et puis le premier centre de production de vaccins à ARN messager de BioNTech en Afrique. Le BioNTeneur a été inauguré à Kigali au cours d'une cérémonie à laquelle de nombreuses personnalités ont pris part, notamment Macky Sall, Nana Akufo-Addo, Moussa Faki, Adesina ou encore Ursula von der Leyen. Une avancée dans la recherche et la production de vaccins sur le continent et à terme 50 millions de doses de vaccins de type ARN messager contre le Covid pourraient être produits dans ce centre chaque année. Notons que l'un des principaux objectifs de ce projet est de produire en Afrique des vaccins pour l'Afrique à prix abordable. Cette information met un terme à notre rendez-vous de l'actualité d'ici et d'ailleurs, dont voici le rappel des titres. Le bureau politique du PDCI RDA s'est effectivement ouvert ce mardi après-midi après la suspension le 16 décembre dernier de son 8e congrès extraordinaire qui devait désigner son nouveau président. Nous étions en début d'édition avec Francis Cassis pour le point de la situation au siège du parti septuagénaire. Et puis 5 projets de loi ont été adoptés par les sénateurs ivoiriens qui étaient en séance plénière de délibération hier lundi à Yamoussoukro. La présidente du Sénat, Kandiaka Missoko Camara, a par ailleurs souhaité le relèvement des budgets des collectivités territoriales. Et 100 000 nouveaux ménages issus de 14 régions vont bénéficier du programme Filet Sociaux Productifs, a annoncé récemment la ministre de la Solidarité, Belmonde Dogo, lors d'une cérémonie à Dalois, où elle a encouragé les populations à œuvrer pour la réduction de la pauvreté. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine Mon Droit au quotidien, présenté par Aoussi Potin.